Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, ayant bénéficié du plan de relance, l'entreprise BEA Bains et Arômes a ouvert les portes de son usine valencelaise à des acteurs économiques et institutionnels. Reportage dans ce magazine. Nicole Chabanier, sous-préfète de Castellane et également référente pour le 04, évoque l'agenda rural au micro de Véronique Herman, la présence et l'aide de l'État en concertation avec les acteurs locaux. Digne-les-Bains ouvrira son campus connecté à la rentrée de septembre, explication dans le reportage de Dil Frison. Histoire, en 1639, un prêtre de Briançon est accusé de concubinage. Des détails dans un instant. Le festival de musique ancienne de Simiane-la-Rotonde s'ouvre le 31 juillet. Mathieu Marc a interviewé Gilbert Elkaïm qui donne le programme de cette 39e édition. Du 5 au 10 août, c'est le retour des Oralies à Fort-Calquier et alentour. L'interview de Laurent Descartes à la fin de ce magazine. Plan de relance dans le 04, des fonds pour le bien-être.
Lauréate avec une dizaine d'autres sociétés dans les Alpes de Haute-Provence, l'entreprise BEA a accueilli ce lundi partenaires élus et institutionnels, au premier rang desquels la préfète Desmarais, la sous-préfète William, des représentants du département, de la DLVA, de l'UDE et de l'AD04, Valensole, Fort-Calquier et sa communauté de communes notamment. Accueilli par le directeur général de Bains et Arômes, Mounir Batiza, et son équipe, ils ont visité le laboratoire de production de Valensole qui complète efficacement le siège historique de Fort-Calquier. C'est en 1992 que Pierre Garcin, un ancien de l'Occitane, crée une entreprise de cosmétiques qui sera une sous-traitante de bien des marques. 30 ans après, et sur deux sites, BEA est sous la coupe du groupe Conda et exporte la moitié de sa production à l'étranger, et notamment vers une structure américaine portant le doux nom de Mistral, des produits de toilettes et bains raffinés qui fleurent bon la Provence. Car BEA est ancrée dans son terroir. Lavande, miel, huile d'olive rejoignent les beurres de karité, monoï et autres produits plus exotiques pour composer des savons et shampoings aux parfums inoubliables. BEA se développe, recrute, vous entendrez le directeur général lancer un appel dans un instant, et investit aussi pour grandir. Des millions d'euros ont déjà été investis et d'autres suivront. C'est dans ce cadre que les 200 000 euros attribués par le plan de relance trouvent leur place. Violaine Desmarais, préfète des Alpes de Haute-Provence, en parle juste après l'intervention de Mounir Batiza. Mais d'abord, et en référence à l'histoire de BEA, Michel Dalmasso, élu à la ville de Fort-Calquier et sa communauté de communes, et depuis peu également vice-président du conseil départemental. Michel Dalmasso, vous êtes élu à Fort-Calquier, vous êtes également vice-président du conseil départemental. Je suppose que le Fort-Calquierien que vous êtes est satisfait de voir le développement de BEA.
Ah ben complètement. Je vais juste revenir un peu sur le pays de Fort-Calquier parce que c'est là où aujourd'hui je développe mes activités en tant que vice-président chargé de l'économie. BEA aujourd'hui fait partie de l'entreprise, à l'époque qui était poussée par Pierre Garcin, une entreprise familiale qui faisait suite à une autre entreprise qui était Lataste, qui a toujours développé des produits du territoire. Et moi, je suis plus que satisfait aujourd'hui de voir que BEA arrive à se développer, notamment maintenant sur une chaîne sur Valensole, tout en développant du produit du territoire, en gardant l'économie sur le territoire et surtout en créant de l'emploi. Et ça, c'est fantastique chez nous.
Vous représentez trois collectivités territoriales. Le directeur général de BEA, qu'on va entendre dans un instant, a fait appel justement au soutien de ces collectivités. C'est possible ?
Évidemment, aujourd'hui, nous, on souhaite accompagner toutes les collectivités, avec bien évidemment la région représentée par David Géant, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est par chance en vacances. Mais voilà, donc notre envie, c'est de vraiment accompagner toutes les entreprises qui peuvent s'installer chez nous et se développer chez nous dans ce programme-là, de les accompagner pour qu'ils puissent se développer tel qu'on peut l'imaginer aujourd'hui.
Alors on va passer la parole justement à Mounir Tabiza. Vous êtes le directeur général de BEA. Ce plan de relance, vous l'avez préparé et vous en profitez entre guillemets.
Effectivement, donc c'est venu à point nommé. BEA s'était déjà lancé dans un plan d'investissement très fort de 4 millions d'euros sur 4 ans. Lorsque nous avons eu écho cette opportunité du plan de relance, nous avons candidaté, nous avons simplement déployé le projet initial qui était prévu et nous avons été retenus notamment sur le projet de Valensol qui consiste à la fabrication, la conception d'une troisième ligne de production de savon et de shampoing solide, une ligne qui et aussi respecte les critères d'éco-production car elle est moins énergivore que les deux premières lignes et avec une capacité de production et un niveau de qualité très important pour les produits de shampoing solide notamment.
Alors vous êtes dans une entreprise de cosmétiques qui travaille sur le bien-être de la personne, mais vous êtes aussi très accorte sur le bien-être de vos salariés et notamment vous avez créé une dynamique un petit peu particulière. Expliquez-nous.
Effectivement, on a un écosystème social, sociétal qui est très important. BEA, on a fait le choix de ne pas opposer l'économique au social. On est des gens très pragmatiques. On a construit un modèle de société qui doit être rentable, durable, mais aussi social. On veut des gens qui ont un sentiment d'appartenance et un niveau d'engagement qui soit fort. Et bien pour cela, on a une ossature managériale, une approche managériale, une approche de l'autonomie au travail, une approche aussi très pragmatique du bien-être au travail, le café gratuit, le fruit gratuit, la mutuelle gratuite, une protection sociale de qualité. Pour nous, ben voilà, ça nous rend collectivement meilleurs. Souvent, moi j'aime dire, on est des gens ordinaires qui avons su constituer un collectif extraordinaire en 18 mois et qui a contribué au redressement de cette société. Notre modèle, il est même duplicable au-delà de notre beau territoire du 04.
On va continuer sur cette lignée. Vous avez des besoins en recrutement.
Exactement. Nous sommes à la recherche d'une dizaine de conducteurs de ligne, donc dans le registre technique. Donc on fait un appel à tous les gens qui ont un vernis technique, que ce soit de maintenance, de tout métier divers et variés. On a fait le choix d'être très ouvert chez BEA. Et puis comme on a du mal à recruter, on a fait aussi le choix d'être un peu école en interne, d'accompagner, de donner du temps à la formation. On veut des gens à l'extérieur qui viennent nous rendre meilleurs. Souvent, la résultante d'un recrutement, c'est ça. On vient, on donne la dimension technique qui nous permet d'avancer. Et puis on va rechercher des gens qui ont une ouverture d'esprit, une capacité à critiquer positivement pour nous faire cheminer et avancer. Donc oui, nous recrutons une dizaine de personnes, c'est d'actualité.
À vos côtés, Violaine Desmarais, préfète des Alpes de Haute-Provence. Madame la préfète, vous êtes présente ici pour vérifier les effets du plan de relance.
Vérifier et partager surtout les moments forts comme ceux-là où on vient couper un ruban et donc finalement, collectivement, célébrer cette belle réussite. Cette belle réussite, c'est celle ce soir de BEA, qui était déjà une pépite dans notre département, qui, on l'a vu, a une histoire très ancrée dans le territoire, qui a su se renouveler et qui avait un projet au moment où nous, État, on amenait, compte tenu de la crise sanitaire, des moyens pour nos entreprises. Et donc l'entreprise a su répondre présente, elle a fait une très belle candidature. On l'a accompagnée avec les collectivités locales dans cette candidature et puis derrière, on a pu la retenir. Donc c'est vérifier que on puisse valoriser le plan de relance à sa juste valeur, mais c'est surtout venir partager avec le chef d'entreprise, les élus, les salariés un moment important pour eux et pour le territoire.
Et il y a dans le département une dizaine d'entreprises qui peuvent bénéficier du plan de relance pour l'instant.
Alors, pas du plan de relance. On a 11 lauréats à ce stade d'un des appels à projets du plan de relance qui est territoire d'industrie, qui permet justement de maintenir de l'emploi, d'en créer et de maintenir en localité territoriale de l'emploi industriel. On a beaucoup d'autres entreprises qui bénéficient et qui bénéficieront du plan de relance, mais sur cet appel à projet-là, parmi de nombreux autres et des centaines d'appels à projets, on a déjà 11 lauréats et un 12e qu'on va annoncer demain. Ce qui est intéressant de noter, c'est que notre population, elle n'est pas énorme en région PACA, vous le savez, c'est 3%. Et avec ces 11 lauréats, on a déjà 20% des lauréats de la région PACA. Donc c'est 11 sur 75. Donc on en est très très fiers, très fiers de ce résultat collectif, et on compte pas s'arrêter là.
Le 04 est un département rural, mais il est aussi industriel, et la visite d'aujourd'hui le prouve.
Exactement, contrairement à ce qu'on peut penser, mais dans ce territoire, finalement, on a tout. Parfois, on a juste tendance à l'oublier, mais on a tout. Et on a vraiment, dans tout le territoire, il n'y en a pas un qui y échappe. On a des entreprises, et il se trouve que le plan de relance visait notamment à aider les petites entreprises, les moyennes entreprises. Et donc cet appel à projet, parmi d'autres, il a trouvé face à lui, et pour lui, des entreprises qui avaient des idées, qui avaient des beaux projets. Et c'est une rencontre, pour reprendre les propos du directeur général, à point nommé.
Votre sentiment sur cette visite, justement ?
Cette visite, elle fait qu'on apprend toujours des choses, ce qui est fantastique dans le métier que je fais. Et puis, on a vu des gens intéressés, passionnés, passionnants. On a vu à quel point la mécanisation, elle a apporté beaucoup en termes de conditions de travail. Après, ça reste des métiers qui sont pas faciles nécessairement, mais sur lesquels on recrute, comme l'a dit le directeur général. Donc, si ça pouvait profiter à des demandeurs d'emploi, à des personnes qualifiées qu'on a dans le département, ce serait fantastique. Et puis, moi, j'ai ressenti une belle ambiance managériale, en effet, et donc ce que dit le directeur général, je pense qu'on l'a tous senti à travers les échanges qu'on a pu avoir avec les salariés. Il ne faut pas oublier que c'est pour eux qu'on fait ça avant tout, hein, et c'est pour les entreprises qui produisent de la richesse pour le pays et pour le territoire.
L'agenda rural, des mesures concrètes pour les territoires.
La sous-préfète de Castellane, Nicole Chabanier, évoque dans un instant cet agenda qui est la feuille de route du gouvernement pour les territoires ruraux. Elle a été élaborée en 2019 grâce au travail des élus de l'Association des maires ruraux qui ont proposé un certain nombre de mesures au gouvernement. Dans ce dossier, citons par exemple les maisons France Services ou la création des conseillers numériques et des fonds disponibles pour la culture, la santé, l'emploi, etc. Au micro de Véronique Herman, la sous-préfète décline plusieurs mesures de l'agenda rural. Nicole Chabanier.
L'agenda rural, initialement, ce sont 181 mesures au profit du monde rural. Ces mesures ont été complétées fin 2020 par d'autres dispositifs et la désignation notamment d'un référent ruralité au sein du département. Donc c'est cette fonction que j'occupe en plus de mes fonctions de sous-préfète d'arrondissement. L'agenda rural donc, se décline en 8 grandes thématiques que sont les services publics et le territoire, l'économie et l'emploi, l'éducation, la jeunesse et le sport, la santé, la culture, l'agriculture, la sécurité et la transition écologique et les transports. Tout un ensemble de mesures qui sont déterminées sur ces thématiques-là et que nous devons développer dès lors qu'elles sont en adéquation avec les besoins des territoires.
Vous avez quelques exemples à nous citer ?
Oui, les exemples sont nombreux parce que nous avons largement décliné l'agenda rural sur le territoire bas-alpin et nous continuons. Par exemple, le développement des espaces France Services sur le territoire, c'est une mesure phare de la grande thématique services publics et territoire. Je le rappelle, les France Services sont à disposition des administrés et doivent leur permettre d'accomplir des formalités administratives dans différents domaines en étant plus près d'eux. À l'heure actuelle, et je crois que d'ailleurs c'est une information qu'il faut donner, nous avons eu de nouvelles labellisations d'espaces France Services. Nous en comptons désormais 15 sur le département, ce qui grosso modo correspond à une France Service par canton. C'était un des objectifs qui est déjà rempli. Il peut s'agir aussi de développer ce qu'on appelle les volontaires territoriaux en administration. C'est l'État qui finance forfaitairement un poste de jeunes diplômés qui peuvent avoir un contrat entre 12 et 18 mois et le gouvernement verse forfaitairement 15 000 euros. Des recrutements sont en cours. Nous avons à l'heure actuelle 3 VTA, volontaires territoriaux en administration, qui sont recrutés. D'autres vont venir. C'est également le fait de pouvoir recruter des conseillers numériques qui sont là pour accompagner les administrés dans leur démarche administrative. Nous avons eu d'ores et déjà 8 conseillers numériques qui ont été recrutés par les collectivités territoriales. Nous avons un nouvel appel à projet et nous financerons des conseillers numériques dans des structures privées.
D'autres exemples ?
On peut citer aussi le développement des projets alimentaires territoriaux. Ce sont des aides qui sont versées aux collectivités pour leur permettre de développer des circuits courts et valoriser tout ce qui est consommé local.
Quel type de collectivité ?
Nous avons par exemple sur l'arrondissement de Castellane, la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon qui a eu un PAT, donc un projet alimentaire territorial qui a été labellisé. Nous en avons à Nubail, la commune par exemple de Josier. Son projet est appelé après à grossir et à prendre une échelle intercommunale. Donc ça peut être des projets à l'échelle communale ou intercommunale.
Et est-ce qu'il y a des subventions pour ces projets ? Comment ça se finance ?
Oui, le ministère de l'Agriculture aide au financement de ces projets, des animateurs de ces projets, puisqu'il y a toute une diversité d'actions qui s'inscrivent là-dedans, qui passent par exemple sur des actions de sensibilisation des enfants, des ateliers dans les écoles. Bon, il y a des subventions pour tout ça, des aides qui permettent de développer ces projets.
Un projet sur la culture peut-être ?
Alors en matière de culture, nous avons plusieurs projets à décliner sur le département, notamment tout ce qui est création et développement des tiers-lieux. Nous avons également des projets ou des mesures à développer pour le mécénat culturel et les lieux culturels itinérants. Et je pense que ça, c'est une réponse particulièrement pertinente sur nos arrondissements, sur notre département.
Par exemple, cinéma de pays ou...
Cinéma de pays, où c'est apporter des spectacles, et il y a des financements pour ça, au plus près des habitants. Que la culture ne soit pas réservée, que les spectacles ne soient pas réservés.
Est-ce qu'il y a déjà des projets qui sont effectifs et qui fonctionnent ?
Les projets sont nombreux. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, de nombreuses mesures sont d'ores et déjà déclinées sur l'arrondissement. Sur les 181 mesures initiales, on était à peu près à 50% de mesures qui étaient déclinées sur le département, ce qui est bien. Les élus, les acteurs, l'ensemble des acteurs locaux, hein, élus compris, mais autres partenaires économiques, sont particulièrement dynamiques et volontaristes pour apporter au plus près des Bas-Alpins l'ensemble des services et faire en sorte que la vie dans nos ruralités soit agréable aussi, parce que c'est ça le but.
Et pas seulement pour le tourisme.
Et pas seulement pour le tourisme, c'est ça. Et la crise sanitaire a montré que finalement la ruralité, le monde rural attirait. Mais encore faut-il avoir les moyens, les services
et la logistique qui va
avec.
Hier, vous êtes allée avec Madame la Préfète visiter la nouvelle maison de pays de Castellane. Est-ce que ça rentre dans ce cadre ?
Oui, la création de la maison de pays entre pleinement dans le dispositif de l'agenda rural, puis c'est inscrit dans le projet alimentaire territorial porté par la communauté de communes. Donc cette maison de pays, elle participe du développement des circuits courts et valorise les producteurs locaux. Donc en ce sens-là, oui, on est pleinement dans l'agenda rural. Et on s'en félicite d'ailleurs parce que c'est un bel outil.
Et dans les projets qui restent à mettre en place, quelles sont les priorités ?
Alors je dirais que les priorités, ce sont les acteurs de terrain qui vont les décider, notamment les élus qui portent les projets. Nous, État, on est là pour les accompagner. On a déterminé un certain nombre de mesures sur lesquelles on est tombé d'accord, sur le fait de devoir les décliner. Donc il y en aura à venir à la rentrée, dès la rentrée, mais on continue... même cet été, à y travailler dessus. Ce sont des projets dans des orientations différentes, que ce soit la santé, l'économie, l'emploi, parce que ça reste quand même des préoccupations de tous les jours, hein, notamment l'emploi.
Quel est l'avantage d'être référent d'une action comme celle-ci ?
L'expérience du concret. Parce que très souvent, on peut travailler sur des dossiers, sur des réglementations diverses, mais là, l'agenda rural, c'est vraiment du concret. Ce sont des mesures qu'on va aider à mettre en place, qu'on va faciliter, avec un effet très direct sur les administrés. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est l'administration concrète. On est là pour faciliter les choses, pour faire en sorte qu'il y ait plus de services, qu'il y ait plus, on va dire, de désenclavement parfois, hein, des territoires. Et ça, c'est passionnant parce que c'est du vivant. Puis c'est travailler en partenariat total avec les collectivités, notamment avec les élus, faciliter l'émergence du projet, lever les obstacles, amener des financements et au final, ben voilà, on va fêter le recrutement de tel ou tel jeune et là, je trouve que ça, c'est passionnant.
Le campus connecté ouvrira ses portes en septembre.
Depuis quelques mois, le campus est labellisé à Digne-les-Bains en même temps que d'autres sites déjà sélectionnés. L'objectif du ministère de l'Enseignement supérieur pour 2022 est qu'une centaine de campus puissent ouvrir. Ce sera déjà le cas pour 89 d'entre eux à la rentrée prochaine, disséminés à travers tout le territoire, dont 12 en région PACA. Au-delà des motivations locales, la structure offre des locaux, des fonds et du matériel pour suivre des formations à distance, et ce, dans un tiers-lieu très particulier qui permettra d'accueillir des publics très différents. Au micro d'Odile Frison, Francis Kuhn, premier adjoint au maire, délégué à l'innovation numérique, aux finances et aux ressources humaines, puis Jean-François Gombert, tuteur accompagnant des apprenants.
Un campus connecté, c'est une initiative du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, qui s'est traduit par un certain nombre d'appels à projets qui sont succédés ces derniers mois. Et donc la ville de Digne a répondu à cet appel à projet qui s'inscrit dans les programmes d'investissement d'avenir mis en place par l'État et porté par la Caisse des dépôts en termes de financement. Et donc nous avons candidaté l'automne dernier, nous avons été interviewés par un jury, nous avons, semble-t-il, répondu correctement puisque notre candidature a été retenue. Et donc le campus connecté ouvre à Digne au mois de septembre grâce à une subvention très importante allouée par l'État, Cette subvention de 300 000 euros nous permet d'embaucher un coordinateur, tuteur, qui va donc s'occuper des étudiants, qui va s'occuper de faire fonctionner ce lieu, et nous permet de financer ça sur 5 ans. Nous avons également du matériel, qui a été donc acquis par la ville, c'est la contribution de la ville, et nous avons des locaux qui sont mis à disposition par Aix-Marseille Université, dans le cadre des locaux de l'actuel INSPE, anciennement l'IUFM, et l'atelier Canopée, boulevard Rénac, avec donc un aménagement qui a été fait spécifique pour accueillir dans les meilleures conditions possibles ces étudiants qui auront une offre de formation, de parcours d'enseignement supérieur à distance, avec un accompagnement de la part de Jean-François Gombert, qui est le tuteur.
L'objectif, c'est aussi vraiment de garder des étudiants sur le territoire des Alpes-de-Haute-Provence, de Digne.
Oui, on est sur une offre vraiment à des jeunes, mais aussi à des moins jeunes, qui ne souhaitent pas tout simplement s'expatrier. Bien sûr que pour faire réaliser leur projet, suivre la formation qu'ils vont choisir, il y a une offre très importante, il faudra qu'ils s'inscrivent à l'université de leur choix. Mais une fois qu'ils seront inscrits, ici à Digne, on leur offre gratuitement tout ce dont ils ont besoin pour suivre cette formation à distance.
Jean-François Gombert, alors vous êtes le tuteur. Vous allez donc accompagner ces étudiants sur le campus connecté de Digne qui ouvre donc en septembre prochain. Donc ce sont 130 formations qui sont proposées.
Ce sont des formations au nombre de 130 pour l'heure, mais qui sont en évolution permanente, hein, puisqu'en fait, on l'a vu notamment à partir de la crise sanitaire, l'enseignement à distance est en cours de développement, d'enrichissement de manière un peu permanente. Chaque jour, de nouvelles formations voient le jour. La spécificité de ce dispositif, c'est de permettre de suivre des formations à distance, mais comme l'a expliqué M. Kuhn, de pouvoir bénéficier de ressources humaines qui vont accompagner au quotidien les étudiants, les apprenants qui vont s'inscrire au campus connecté de manière à les aider dans la réussite de leur projet sur place avec encore une fois un suivi au jour le jour, un accompagnement pour tout ce qui est les questions de motivation, de méthode de travail notamment.
Donc c'est un accompagnement quand même assez léger puisque ça peut être d'une heure par semaine par personne ?
Oui, assez léger. Nous, on a voulu que ce dispositif soit le plus souple possible, c'est-à-dire que le campus connecté sera ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30. Les personnes qui seront membres du campus connecté y viendront selon un emploi du temps connu à l'avance, mais avec un nombre d'heures qu'ils définiront eux-mêmes, et ils bénéficieront sur place d'un accompagnement pour savoir si le projet qui leur tient à cœur est bien celui correspond bien à ce qu'ils avaient choisi au départ, parce qu'on peut aussi se réorienter, etc. Donc on essaye de faire en sorte que la souplesse soit la plus grande possible, et une heure par semaine ça paraît peu, mais en réalité ce sera quand même un accompagnement permanent sur pratiquement une année, et ça permettra à ces jeunes de ne pas suivre leur formation entièrement à distance, mais de venir sur un lieu et de bénéficier d'un soutien de façon régulière.
Donc ça se passera sur le site de l'INSPE, rue Joseph Rénac, donc avec du bon matériel, tout à disposition.
Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'en fait, les étudiants qui choisiront de faire cette formation à distance viendront sur le site et la suivront, alors qu'ils seront inscrits dans une autre université, et que les diplômes qui suivront auront la même valeur que les diplômes qui seraient suivis à Aix, Marseille Université, sur le site d'Aix ou le site de Marseille, par exemple, pour nous. Sur place, ils bénéficieront effectivement de la fibre optique, donc ils peuvent bénéficier de l'internet à haut débit, ils peuvent avoir un certain nombre d'équipements à disposition, des ordinateurs qui seront prêtés pour ceux qu'ils souhaiteront, en particulier. Ils bénéficieront aussi des lieux qui sont eux-mêmes des lieux classés au départ, c'est une vieille école du 19e siècle, et avec un magnifique parc, avec des espaces de détente. Donc on veut que ce soit un lieu qui soit à la fois un espace de travail équipé et un espace de travail le plus confortable et le plus convivial possible.
Et on ne parle pas de concurrence avec les cours par correspondance
Pas du tout, et puis même avec les... Déjà, à Digne-les-Bains, on peut suivre un certain nombre d'enseignements dans le supérieur, que ce soit à l'IUT, que ce soit à l'IFSI, que ce soit à l'IRTS en particulier. L'idée du campus connecté, c'est de permettre d'avoir accès à des formations pour lesquelles il était jusque-là impossible de pouvoir les suivre. Là, désormais, on a ces formations à distance, non seulement on peut les suivre à distance, mais encore une fois, on bénéficie d'un lieu qui permet de venir les réussir. Donc on distingue ces deux niveaux. Le campus connecté n'est pas en soi un organisme de formation, c'est un tiers lieu, un endroit où on peut venir disposer d'un certain nombre d'outils de réussite des formations qu'on a choisies.
Tout à l'heure, vous parliez qu'il n'était pas nécessaire forcément d'avoir le bac pour s'inscrire.
Tout à fait. A priori, Ce dispositif qui est initié par le ministère de l'Enseignement supérieur s'adresse bien évidemment aux personnes qui souhaitent suivre des formations dans le supérieur, mais notamment via le DAU, un diplôme qui permet de faire passerelle vers le supérieur pour les étudiants qui se seraient arrêtés avant le bac. Donc nous avons la possibilité d'accueillir aussi ces jeunes qui souhaitent suivre un DAU en vue de poursuivre ensuite dans le supérieur et d'une certaine façon raccrocher l'enseignement supérieur par cette passerelle. On n'est pas destiné exclusivement à des étudiants qui souhaiteraient suivre de la formation initiale, on peut également suivre de la formation continue, on peut accueillir des personnes qui sont en reconversion professionnelle, des personnes qui ont abandonné leurs études et qui souhaitent les reprendre, et non pas seulement des personnes qui les poursuivent dans le cycle normal post-bac. Le campus est très ouvert à des publics très différents, on peut aussi accueillir des gens qui par exemple seraient phobiques à l'institution scolaire et souhaiteraient bénéficier d'un lieu dédié, des personnes qui souffrent d'un handicap physique qui ont du mal à se déplacer. Je sais que dans un certain nombre de campus c'est déjà présenté la problématique des autistes aussi, donc le campus connecté est destiné à accueillir des publics très différents.
Pour s'inscrire, il faut aller sur le site.
Alors sur le site internet, vous trouverez à la fois le numéro de téléphone auquel l'équipe du campus connecté peut être contactée, également un mail où vous pouvez laisser des messages, et également, si vous le souhaitez, vous préinscrire directement en ligne à partir du site du campus connecté.
Briançon, en 1639, un prêtre est accusé de concubinage.
Une mise en accusation d'un prêtre de Briançon, c'est l'anecdote croustillante dont nous parle Arnaud Gagneux, responsable des archives municipales de la ville. L'affaire démarre en 1639 et durera plusieurs années. Le prêtre Antoine Disdier et son vicaire sont visés par une plainte de l'archevêque d'Embrun pour pratique de jeu de cartes, du tarot et concubinage. Pour rappel, et avant d'écouter l'interview d'Arnaud, jusqu'au 25 septembre, vous pouvez découvrir l'exposition Archives sources du patrimoine historique local à la médiathèque Laruche de Briançon. Témoin direct de l'activité humaine, les archives jouent un rôle capital dans l'étude du passé. Une visite est instructive. Revenons à l'affaire du XVIIe siècle. Arnaud Gagneux répond aux questions de Susanna Wright.
Arnaud Gagneux, vous êtes responsable des archives municipales à Briançon et vous allez nous présenter un document aujourd'hui, c'est lequel ?
Aujourd'hui, je vais vous présenter une mise en accusation du prêtre de Briançon, donc de la paroisse de Briançon, par l'archevêque d'Embrun. Donc en fait, il a été dénoncé du fait de ses mœurs peu habituelles par rapport à son devoir de religion. Et en fait, il s'adonne à la pratique de jeux de cartes, donc qui est interdit pour les prêtres, et qui plus est, il pratique le concubinage avec des femmes et il les invite dans la maison paroissiale, donc dans la cure, et à passer la nuit avec lui. Donc ce qui est totalement interdit. En plus, on est en 1639, donc la religion est ultra présente dans la vie des Français à l'époque. Et dans ce document-là, en fait, on pourrait dire que c'est un procès-verbal de son accusation. Donc on résume les faits. Et en fait, il n'est pas accusé tout seul, puisqu'il y a aussi son vicaire. Donc c'est la personne qui l'accompagne normalement dans la pratique de la messe, puisqu'il est notifié que au lieu de faire la messe d'officier, il préfère jouer au tarot. Qui plus est, il a pris le tapis du bénitier pour jouer aux cartes dessus. Et en plus, il invite donc du coup des femmes dans la cure. Et on nous dit que à cette femme-là, il lui a fait 3 enfants. Donc normalement les prêtres n'ont pas le droit, en tout cas les prêtres catholiques, puisque il y a une différence entre prêtres catholiques et protestants, les prêtres catholiques n'ont pas le droit d'avoir des enfants, et surtout d'avoir des relations sexuelles avec qui que ce soit. Dans ce procès verbal, on nous résume les faits, et ce qui est assez drôle, c'est de voir un prêtre être accusé de s'adonner à ce genre de pratique, alors que normalement c'est totalement interdit. Après, on n'a pas d'informations, donc il y a tout un procès en fait qui est fait.
D'accord. Et le procès s'est fait par qui ?
Du coup, c'est l'archevêque d'Embrun qui mène le procès, puisque c'est l'autorité supérieure qui gère les prêtres dans le diocèse d'Embrun.
La police, par exemple, n'intervient pas.
Alors, C'est l'Église qui va gérer ses propres affaires. Tout D'accord. ce qui est lié au culte et surtout aux prêtres, c'est l'Église qui va intervenir et qui va, on va dire, juger eux, par eux-mêmes les affaires. Tout ce qui est lié à la police, par exemple tout ce qui est criminel, là ça va être plutôt dans les archives de la police. Et on a plusieurs documents qui font ouais. partie de la du même ensemble, donc dans une liasse. Et ce procès apparemment a duré plusieurs années. Je pense qu'il y a eu quand même quelques péripéties. Et on sait que, en tout cas comme décision qui a été prise, c'est que le prêtre a été remplacé par un autre prêtre qui a sûrement a de meilleures mœurs que lui.
Sage.
Mais on ne sait pas quel est son avenir. S'il a été, excommunié des rangs de l'Église.
Et pour ses enfants ?
On n'a aucune information sur le devenir de ses enfants, ouais. s'il les a reconnus ou pas. C'est assez délicat. En tout cas, on ne s'est pas exprimé. Alors peut-être qu'aussi l'Église cherchait à étouffer l'affaire pour pas que ça fasse de scandale. Donc il est possible aussi que ce prêtre ait été envoyé ailleurs pour éviter qu'on en reparle encore davantage.
Et le document, c'est écrit dans quelle langue ?
Alors du coup, on est au XVIIe siècle, la langue c'est le vieux français, puisque depuis 1539, la langue officielle dans les textes est le français, pour qu'il soit compris de tous, puisque on va dire que à partir du XIVe-XIVe siècle, il y a une baisse du niveau de langue de langue en France et puis dans d'autres pays européens, puisque la pratique du latin était officielle et enseignée par les prêtres. Et en fait, au bout d'un moment, il n'y a que les prêtres qui savaient écrire et comprendre le latin. Et ce qu'on appelle la langue vulgaire, la langue qui était pratiquée par le peuple, donc le vieux français, va être autorisée dans les textes à partir de 1539. Et là, on a un texte qui est parfaitement écrit en vieux français, avec bien sûr des expressions qui ont plus ou moins disparu aujourd'hui, et aussi une écriture qui a changé aujourd'hui.
Et est-ce qu'il y a un moyen de savoir son parcours après ?
Ça va être difficile puisque on ne sait pas s'il est parti de Briançon ou pas. Et je pense qu'il est parti de Briançon. Donc ensuite, il faudrait voir peut-être dans les archives du diocèse s'il y a des choses sur ce prêtre.
Simiane Larotonde prépare son festival de musique ancienne.
Cette année, la 39e édition du festival de musique ancienne à Simiane Larotonde du 31 juillet au 10 août. Un festival étonnant qui est placé sous le signe du mythe d'Orphée et se déroule dans l'étrange édifice qui lui sert d'écrin. Retrouvez l'ensemble du programme sur festival-simiane.com et n'oubliez pas de réserver depuis le site ou de retirer vos places à l'office de tourisme de Fort-Calquier. Présidente de l'association Les Riches Heures Musicales de la Rotonde, Gilbert Elkaïm présente les différents rendez-vous au micro de Mathieu Marc.
39e édition, c'est une longue histoire ce festival.
Oui, c'est une date importante. Elle prélude déjà à ce qui sera, nous espérons l'an prochain, un 40e anniversaire et on l'appellera le 40e rugissant. Je l'annonce dès maintenant, voilà, pour donner une teinte un petit peu optimiste en ces temps difficiles. Donc cette année, le 39e, dans la Rotonde, hein, dans ce lieu superbe qui accueille le festival. C'est un monument historique qui est classé maintenant, qui appartient à la commune de Simiane. C'est une sorte de tour du XIIe siècle, autour de laquelle s'est développé un château, après petit à petit, jusqu'à la Renaissance. Mais la tour elle-même, elle date du XIIe siècle, et c'est à l'intérieur de cette tour qu'il y a une salle assez extraordinaire, qui semble pas devoir accueillir des manifestations de musique quand on la voit de l'extérieur. C'est plutôt château fort de l'extérieur. Et de l'intérieur, c'est magnifiquement décoré, cette salle de la Rotonde, qui accueille donc le festival depuis 39 ans.
C'est aussi un festival qui est placé sous le signe d'Orphée.
Depuis quelques années, on essaye de donner des thématiques, parce que c'est une de nos idées aussi, qu'un festival de musique doit avoir des échos avec d'autres arts, avec le cinéma, avec la littérature, avec la danse. Les thèmes permettent de mettre en relation différents arts. Donc évidemment, le thème d'Orphée, en plus on l'avait sous-titré Le chant du monde, parce que l'an dernier c'était le 50e anniversaire de la disparition de Jean Giono, donc il y avait un petit signe qui était envoyé. Et donc Orphée, évidemment, qui est à la fois l'inventeur de la musique, la mythologie, le cinéma, puisqu'on va projeter aussi Orfeo Negro.
Et le festival commence donc le 31 juillet avec le Syndrome d'Orphée, qui est un récital théâtralisé.
C'est nouveau, c'est la première année. On a applaudi la proposition de Marc Moyon, qui est un des plus grands barytons actuels, d'accepter de venir à Signal et de nous proposer ce récital théâtralisé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un prologue en même temps avec la grande question. Hein. Vous savez, quand Orphée retourne chercher Eurydice aux enfers, il remonte. On lui dit ne te retourne pas, sinon tu la perds. Et puis il se retourne. Et donc là, Orphée va chez le psychanalyste pour savoir pourquoi il s'est retourné. Puis en même temps, évidemment, il y a c'est chanté, il y a des airs, Marc Moyon et les timbres autour de ça. Voilà, donc à la fois un petit clin d'œil et en même temps, évidemment, un grand moment musical.
Et pour la suite du programme ?
On a essayé à peu près de structurer une sorte de voyage dans l'histoire de la musique, puisque ça va s'arrêter le 7 août hein, avec le bestiaire d'Orphée, puisqu'on aura le fameux signe de Saint-Saëns. Hein, donc on va du très haut Moyen-Âge, de l'Antiquité, avec Canticum Novum, le 2 août. Le titre du récital s'appelle Thrace, du concert s'appelle Thrace, à la fois des traces d'Orphée et la Thrace, le pays où Orphée est allé chercher l'origine du mythe hein, de la création musicale, séduire les animaux, etc. Le 2 août, on a Canticum Novum, donc de la musique grecque, bulgare, un peu des musiques encore traditionnel dans les Balkans, mais qui était sans doute à l'origine des musiques d'époque de l'Antiquité. Après, on aura un récital le 5 août, là aussi avec un grand ténor, Francisco Manalich. Là, ce sera la grande époque, je dirais, de l'Orfeo, et notamment l'Orfeo de Monteverdi, et de ces compositeurs italiens du début du XVIIe qui créent l'opéra moderne et avec une variété de créations musicales assez extraordinaire. Alors, le 7 août, cette année, on est gâté par des très grandes voix, avec le ténor Étienne Bazola, qui fait, pardonnez-moi l'expression, un tabac en ce moment au Festival de Provence. Étienne Bazola vient avec l'ensemble Artifice, les effets de la musique sur les animaux, parce que Orphée arrivait à dompter des animaux sauvages avec son chant et avec sa lyre. Et puis on terminera le 10 août avec l'Achéron, les larmes de l'exil, c'est la lyre d'Orphée, qui sera tenu par quelqu'un qui vient de là-bas, Socrates Sinopoulos, qui viendra exprès d'Athènes. Ce sera à la fois des musiques de l'époque élisabéthaine anglaise, de la Renaissance, et puis des musiques byzantines, ottomanes, des musiciens grecs exilés, etc. Une sorte de voyage autour de l'exil, hein, parce que Orphée est aussi symbole de l'exil. Voilà. Et malheureusement, nous devions terminer le 14 août, mais compte tenu des circonstances sanitaires et tout, malheureusement, le trio Musicorvana n'a pas pu nous rejoindre. Mais bon, on a déjà quand même un beau programme. Voilà. Et puis, bien entendu, toujours traditionnellement, le 8 août, à la salle des fêtes de Signal, gratuitement, L'Orfeo Negro de René Clément, ce superbe film qui est du baroque brésilien aussi, hein, qui a Orphée à travers le monde. On a aussi, dans le cadre d'un partenariat avec notamment la librairie Le Bleuet, dans la rotonde de Signal, ce sera le 12 août finalement, donc ce sera après la fin du festival, mais dans le même lieu, un concert lecture à partir d'un roman, Le cœur converti, de l'écrivain flamand Stefan Hertmans, donc un récitant, une viole de gambe, qui mettront en scène ce roman assez étonnant que je souligne particulièrement parce qu'il se passe au moment de la première croisade à Monieux, donc pas loin d'ici, hein, dans le Ventoux. Une histoire vraie, que je ne dévoilerai pas ici, tragique et vraie, avec l'association Dex et Voix, donc un partenariat en liaison avec le Bleuet.
Les Oralies, le festival qui compte énormément.
Du 5 au 10 août, c'est le retour des histoires à rêver ou frémir à Fort-Calquier et alentour. Initié par la baleine qui dit vague, C'est la 6e édition de l'événement qui avait connu un grand succès au siècle dernier du côté de Valensole. Les conteurs font voyager le public aux quatre coins du monde. Cette année, leur voix évoque le Pays Basque et l'Occitanie autant que l'Espagne, l'Amérique du Sud, le Liban, l'Inde ou encore le Vietnam et le Japon. Un florilège pas si cosmopolite car lié par le conte et qui met en valeur la cité des quatre reines mais aussi d'autres lieux comme l'Ardiès ou Bannon où va opérer la magie de la parole. Et même si cet été l'événement reste contraint par des mesures sanitaires, l'organisation a prévu bien des temps forts. Avant d'écouter Laurent Descartes parler de cette édition, une information pour tout renseignement. 06 95 42 84 05, 06 95 42 84 05 et également un coup de chapeau aux graphistes du studio Mais je rêve qui produisent chaque année des affiches et illustrations originales et de grande qualité à l'image du festival qu'elles annoncent. Laurent Descartes, c'est la 6e édition des Oralies.
Oui, la 6e édition des Oralies, nouvelle formule, n'oublions pas les vieilles.
Les anciennes.
Les anciennes.
Laurent, qu'est-ce qu'il y a au programme cette année, malheureusement marquée par la pandémie et donc les conditions sanitaires particulières?
Oui, on a été obligé de réfléchir sur comment aller dans le spectacle vivant avec des conditions sans savoir quelles seraient les conditions le jour J. C'est ça qui est pas évident. Alors, au programme, on a quand même des beaux rendez-vous. On a un pique-nique compté. On a un repas compté. Donc on vient, on s'installe, on écoute, on déguste aussi bien par les oreilles que par la bouche. On a une grande journée dans les jardins des Cordeliers, de 4h30 à 8h30, pendant 4h non-stop, il y a des conteurs qui vont raconter, on se promène, on écoute un conteur, ça dure 10 minutes, on va un peu plus loin, on en écoute un autre, on mange une crêpe, on boit un coup, on retourne écouter des conteurs. On terminera cette journée-là, qui est celle du dimanche 8 août, on la terminera avec un ciné-conte dans le cloître des Cordeliers avec deux violonistes qui viennent nous faire les intermèdes entre les courts-métrages. Ça va être une belle journée. Et puis, on a quand même gardé notre lever de soleil compté qui clôturera les Oralies, qui se fait à 5h30 du matin à la Citadelle, avec le grand plaisir d'accueillir Bruno de la Salle qui sera là pour ce lever de soleil.
Pas de coucher de soleil parce que justement, pour éviter la foule à la Citadelle, pas non plus d'intervention sur le marché, en tout cas pas comme elle était prévue, vous avez été obligé de vous adapter.
On a été obligé d'inventer et c'est de la contrainte que naît la liberté. Donc à la place des compteurs dans le marché, il y aura un point d'écoute qui sera renouvelé chaque jour avec des comptes différents à écouter en famille. On peut avoir trois personnes qui écoutent la même histoire en même temps. Et puis à la place du coucher de soleil compté, eh bien on va installer des cordels, des petits opuscules de contes que les gens peuvent prendre et se lire les uns aux autres. Voilà, c'est un petit do it yourself.
On va dire aussi, Laurent Descartes, que vous êtes basé sur Fort-Calquier, mais que vous débordez agréablement sur le territoire.
Oui, on déborde beaucoup sur le territoire. En fait, on est un centre ressources régional. Et c'est vrai que notre antenne de Fort-Calquier s'inscrit dans un projet de territoire qui nous amène à amener le conte dans l'éducation, notamment sur Fort-Calquier et la Comcom, avec un conteur qui passe dans toutes les classes de la maternelle jusqu'au CM2 chaque année. Pour que les enfants écoutent des contes différents, le répertoire se le construise petit à petit, comme ça. On va des comptines aux randonnées, des randonnées aux contes merveilleux, etc. Et puis ensuite, le programme continue, puisque en 6e à Fort-Calquier, toutes les 6e ont 7 heures de contes dans l'année. Et on a créé cette année, en 5e à Fort-Calquier, la première classe à option contes de France.
Et plus particulièrement sur les Alpes de Haute-Provence, il y a Bannon, il y a Manosque, l'Ardiès par exemple.
Oui, tout à fait. Donc là, les Oralies vont aller à l'Ardiès et à Bannon. On a ce qu'on a appelé un bifort, même si le terme ne me plaît pas beaucoup, à Bannon aussi, avec une descente au flambeau qui va être très très agréable la veille des Oralies. Mais comme nous accueillons une conteuse en résidence pendant 2 mois, à la maison Picasio à Ongles, eh bien elle va aller à la rencontre des habitants sur différentes manifestations. À Salagon, par exemple, à la médiathèque Herbès de Manosque. Elle va aller également à droite, à gauche, pour rencontrer différents habitants. Voilà. On a commencé d'ailleurs avec la médiathèque de Fort-Calquier, avec des contes soufis, il y a 2-3 jours.
Vous êtes mobilisé, et puis aussi, vous avez monté votre propre site internet, voire un double site internet.
Alors, pour l'instant, le site internet est effectivement en stand-by. En fait, nous avons pour l'instant une page Facebook, effectivement, Les Oralies, qui parle de ce qu'on fait en Haute-Provence, et une page Facebook, La Baleine, qui parle de ce qu'on fait un peu plus loin, c'est-à-dire aussi bien les départements limitrophes que la France, quand on se déplace plus loin. Et le site internet est en préparation. On espère bien le faire sortir à la fin de l'été pour marquer les 25 ans de La Baleine qui divague.
Et oui, bon anniversaire, avec aussi un beau projet. Une future maison d'édition, nous en reparlerons certainement, mais on peut déjà dévoiler le secret ?
Ah oui, on peut le dire. Une maison d'édition spécialisée dans le conte, au moins dans un premier temps. Maison d'édition qui va commencer à sortir une première collection, qui sera sans doute une collection de cordels contés.
Revenons à ce festival, c'est de quand à quand? Et puis pour prendre évidemment des nouvelles de la programmation, comment ça se passe, Laurent?
Alors le festival est du 5 au 10 août, donc du jeudi 5 jusqu'au mardi 10 août. Et les renseignements, il faut nous téléphoner, c'est le plus simple, c'est le 06 95 42 84 05. 06 95 42 84 05, ou bien on a aussi un mail, mais alors là il est un peu plus long, La Baleine qui divague, avec un T à 10 et un S à vague, @mailo.com, et on répond. Voilà.
C'est la fin de ce magazine. Merci François. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Force 7.
Pas de souci. Merci Olivier pour la régie.